À vous tous. Merci d'être présents, considérant notamment la température de ce matin. On sait très bien qu'il y a beaucoup de petites rues qui étaient très, 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 très glissantes. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous voulez vraiment entendre la parole de Dieu. Puis tout à l'heure, c'est bizarre, au travers de ce qu'on a chanté, et même au travers de la prière de notre frère qui vient de faire, ça m'a rappelé que des fois, il me semble, juste les chants, juste les paroles qu'il y a dans les chants, et toutes ces choses-là, juste ça, c'est la parole de Dieu bien souvent qu'on entend. Puis je me suis dit, bien voyons, pourquoi il faut aller en avant puis prêcher? Tout est là. Mais en même temps, effectivement, le Seigneur nous demande aussi d'ouvrir sa parole pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Récemment, je parlais avec une personne puis qui me disait, tu sais, dans le temps des fêtes chez nous, puis tiens, même je vais modifier mon histoire. Au lieu de mettre ça le fardeau sur la personne en question, du coup, qu'elle se reconnaîtrait, ça arrive dans ma famille. Vous savez, on est une famille de 8 enfants chez nous. 7 vivants encore. Dans le temps des fêtes, quand on se réunit avec tout le monde est marié, les petits-enfants et tout ça, il y a des discussions. Et des fois, on dirait que plus tu vas parler fort, plus tu penses que l'autre va comprendre ce que tu es en train de lui dire. Et ça devient une véritable cacophonie. Assez que des fois, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, en parlant de deux, qui est en train de s'obstiner, « Hey! » Vous dites la même chose, mais de manière différente. Ah ouais? C'est peut-être parce qu'on ne s'écoute pas suffisamment. Peut-être que ce n'est pas comme ça chez vous, mais imaginez la joie qu'on peut avoir lorsqu'on peut avoir une occasion de parler et que les gens vont écouter. Tu te dis, waouh, il n'y aurait même pas à m'obstiner, c'est merveilleux. Bien, c'est ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est regarder un passage dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul est invité à partager sa foi. Et ça, c'est quelque chose, dire, regarde, viens nous partager ta foi. Et pour ce faire, je voudrais juste mettre en petit contexte, bien entendu. Vous savez, l'apôtre Paul en est à son deuxième voyage missionnaire. Et Paul est allé notamment à Thessalonique. Lorsqu'il était à Thessalonique, Paul, comme c'est de ses habitudes, il va à la synagogue dans un premier temps parce que il connaît bien les Juifs, bien entendu, étant lui-même un Juif. Mais voilà que lorsqu'il se met à parler de Jésus, que Jésus est le Christ, le Messie qui devait venir, ainsi de suite, ça finit par brasser dans la cage, si on peut dire. Et voilà que Paul est obligé de quitter Thessalonique. Il n'a pas le choix, il faut qu'il s'en aille parce que là, ça devient trop dangereux. Donc, il part de Thessalonique, il s'en va à Bérée, donc juste un petit peu plus bas ici. Et là, à cette place-là, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence encore à annoncer la parole. Il y avait eu une émeute à Thessalonique à cause de ce qu'il disait. Là, il est à Bérée, il y a une bonne écoute de la parole, mais ce n'est pas long qu'encore là, la pression rentre et là, on se met à vouloir y faire la passe, si je peux dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu es obligé de s'en aller. Et là, il va partir de Bérée et il va s'en venir ici à Athènes, en Grèce. Une bonne distance, peut-être en se disant, bien, rendu là, là, ils ne me courront pas après tout le temps, je ne peux pas croire. Donc, voilà que Paul se retrouve à ce moment-là à Athènes et les gens qui l'accompagnaient sont repartis. Et Paul prend la peine de leur demander « Envoyez-moi au plus tôt possible, s'il vous plaît, Silas et Timothée. » Parce que là, Paul se retrouve à Athènes dans un contexte où il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas d'église à ces places-là. Là. Lui est là, c'est un missionnaire. Imaginez la situation pour lui. Et Athènes, vous savez comme moi que c'est encore une ville qui est bien, bien populaire. Beaucoup de gens vont encore là même pour visiter. Et bien entendu, on n'a pas de photos de ce à quoi pouvait ressembler Athènes en l'an 54, le moment où Paul est allé à Athènes. Mais on sait beaucoup de choses quand même sur Athènes. Et même quand on va visiter Athènes de nos jours, encore aujourd'hui, les gens peuvent voir des vestiges de ce qu'il y avait à cette époque-là. Donc, Athènes est une ville vraiment avec une architecture incroyable, vraiment impressionnante. Mais Athènes, à cette époque-là, était aussi une capitale, vraiment la capitale, on pourrait dire, intellectuelle. C'est un peu comme si on prenait bien des grandes universités et on amenait tout ça à Trois-Rivières. On les prend de peu partout, mais on les centralise tous à Trois-Rivières. Donc, Athènes, c'était un peu ça. C'était une capitale très au niveau des intellectuels. Et c'était une capitale, comme vous le savez aussi, très versée au niveau culturel et des arts aussi. Parce qu'effectivement, les personnes qui demeuraient là ont développé beaucoup. Donc, c'est un milieu vraiment particulier. Et c'est à Athènes que des gens très connus aussi, des grands philosophes, ont promulgué ou ont fait connaître leur façon de voir, la façon de réfléchir. Et parmi ces grands philosophes-là, qui avaient chacun, il faut dire, bien entendu, leur école de pensée, on a notre fameux Socrate, on a entre autres aussi Platon, ainsi que Aristote. Ce n'est que quelques-uns de ces philosophes qui avaient des écoles vraiment dans lesquelles les gens allaient étudier pour connaître cette philosophie-là, cette façon de voir la vie, de voir l'univers et de voir l'être humain au milieu de cet univers-là. Et même encore aujourd'hui, si vous allez à l'école, vous allez voir qu'on enseigne encore ce que disaient ces personnes-là. Donc, ce n'est que quelques-uns de ces philosophes-là, mais en plus d'avoir des écoles de pensée, Athènes était une ville qui était très, 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 comment on dit, on pourrait dire, très, très idolâtre. Parce qu'à Athènes, les Grecs avaient des dieux et ils aimaient vraiment se les représenter. Et c'est ce qui fait qu'à Athènes, il y avait un paquet d'œuvres d'art qui représentaient des dieux. On dit qu'à Athènes, il y avait au minimum 30 000 statues qui représentaient divers dieux. Et c'est sûr que quand on pense à ces dieux-là, dans certains cas, ces œuvres d'art-là étaient faites en l'honneur de ces dieux-là. On en connaît certains comme Zeus, Gaïa, Aphrodite. Mais vous savez, il y en avait aussi des dieux qui représentaient des concepts beaucoup plus abstraits. Des dieux qui représentaient, par exemple, la justice, la modestie, donc tous des concepts très, très abstraits. Et j'ai regardé sur Wikipédia pour voir les types de dieux qu'il y avait là. Il y en avait des pages et des pages, mais je regardais ça et je me disais, si j'avais une statue de chacun de ces dieux-là, il y en a qui avaient des formes humaines, il y en a d'autres qui étaient la moitié animale, moitié humain, et ainsi de suite. Et même à cette époque-là, c'est encore plus fort, parce que les dieux en question, parfois, pouvaient même être considérés comme des démons, mais pas des démons dans le sens où nous, on est habitués. C'était normal d'avoir ces dieux-là, parce que si on voulait être protégé, si on voulait vraiment s'assurer d'avoir une vie qui va être agréable, bien, on faisait affaire avec ces dieux-là, on faisait des offrandes à ces dieux-là, on faisait des sacrifices, on donnait pour ces dieux-là, et ainsi de suite. Donc, Athènes était vraiment une ville remplie d'idoles au point où certains historiens vont même dire qu'à Athènes, il était plus facile de trouver une idole qu'une personne. Il y en avait plus encore parce qu'on voulait être sûr de ne pas manquer notre coup. Donc, ils vénéraient vraiment ces idoles-là. Et Paul se retrouve au sein de cette grande ville-là, parcourt la ville, regarde, mais il n'est pas devant ces œuvres d'architecture-là en disant « Wow, que c'est beau! » Non. Paul, lorsqu'il se retrouve au travers de ces œuvres d'art-là, il a le cœur extrêmement affligé. Un cœur qui est tourmenté, à la fois parce que d'un côté, peut-être une colère par rapport à ce qu'il voit là, mais en même temps, une tristesse envers toutes les personnes qui y sont. C'est donc ce qui va faire que Paul va agir. Comme il est allé, quand il est allé avant, Thessalonique, à Bérée, partout où il allait, il fallait proclamer la parole de Dieu. Et ça ne sera pas différent à Athènes. Et dans deux endroits, principalement, où Paul allait. Comme à son habitude, il commençait par aller voir s'il y avait une synagogue, s'il y avait des Juifs. Donc, Paul allait dans un premier temps dans une synagogue à Athènes, où là, à ce moment-là, il voulait vraiment parler de Jésus. Puis vous savez, Paul, pour parler de Jésus, ça devait bouleverser les gens, parce que Paul était un Juif, à l'origine, très pieux. Un Juif qui avait même étudié aux pieds de Gamaliel, un docteur de la loi incroyable. Paul connaissait tout ça, tout ce que l'Ancien Testament disait. Paul était un pharisien rigoureux, un pharisien qui même persécutait les chrétiens. C'était ça, tellement il était zélé. Mais un jour, il s'est converti. Un jour, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et ça, ça l'a bouleversé sa vie. Donc, lorsque Paul allait dans une synagogue, c'était pour parler aux Juifs puis leur montrer qu'à partir des écrits même de l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient, bien, que Jésus était vraiment le Messie, celui qui devait venir. Et il y a un autre endroit où Paul allait, ça s'appelle la place du marché. Bien entendu, c'est une... Et quand on était sur l'Acropole et qu'on voyait vers le bas, on avait tout cet endroit-là où les gens allaient pour marchander, pour discuter, pour échanger. Et Paul se ramasse à la place du marché, qui est un lieu public. Et bien entendu, il commence à avoir des conversations avec tous ceux qu'il rencontrait. Et ça va de soi que quand tu te mets à jaser avec les gens, tu vas avoir des gens qui vont te présenter des idées. Et surtout à Athènes, il y en avait des idées. Parce que imaginez la place du marché où tu peux acheter, mais tu as aussi tous ces disciples de différents philosophes qui sont là, qui marchent, puis qu'eux discutent, eux parlent de ce qu'ils connaissent. C'est des grands intellectuels. Et voilà que Paul a l'occasion de parler avec toutes ces personnes-là. Les antagonistes, maintenant. J'aime pas le mot antagoniste. C'est pas adversaire nécessairement parce que les façons de voir qui peuvent être différentes que Paul rencontre, bien entendu, c'est des personnes qui ont des visions très particulières. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Athènes est la capitale de la philosophie. Et il y avait plusieurs écoles de pensée. Et vous savez que la philosophie, dans le fond, c'est ça vient d'un mot grec qui dit l'amour et sagesse. L'amour de la sagesse. Ce qui fait que les Grecs étaient des gens qui recherchaient beaucoup cette sagesse-là. Et l'être humain a toujours été comme ça, vous savez, c'est pas différent. Les gens ont toujours cherché à expliquer la naissance de l'univers, puis qu'est-ce que l'homme fait dans cette espèce d'univers-là. Donc, Paul commence à jaser avec des disciples, on peut dire ça vraiment, des disciples d'écoles de pensée de certains philosophes. Et le premier qu'ils vont rencontrer, c'est les disciples d'Épicure. Vous savez, c'est quoi un disciple d'Épicure? C'est pas quelqu'un qui a peur d'Épicure, c'est pas, ou qui aime l'Épicure. Ce n'est pas ça du tout. Les disciples d'Épicure, les Épicuriens, ce sont tout simplement des gens dont le philosophe qui était en arrière de cette philosophie-là, c'était tout simplement un philosophe qui s'appelle Épicure, que je devrais avoir éventuellement, le voilà, et qui, lui, avait une vision de la vie assez particulière. Mais regardez bien ça. Lui, pour Épicure, le but principal de la vie, c'était quoi? C'était la recherche du plaisir. Il pensait, lui, que les mondes, l'univers, avaient été faits par une collision accidentelle d'atomes. Puis il ne croyait pas que les dieux de la Grèce, eux autres, avaient une influence quelconque sur les affaires humaines. C'est des affaires pour les Grecs. Les dieux qui sont tous là, ils n'ont pas d'affaires dans nos affaires à nous autres, les humains. Puis qu'est-ce qu'il enseignait? Bien, il enseignait que le corps et l'âme, lorsqu'on meurt, bien, ça se désintègre. C'est fini, il n'y a plus rien. Donc, en n'ayant plus rien, ces gens-là se disaient quoi? Bien, leur devise aurait pu être, dans le fond, « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ». C'est une école de pensée. Et beaucoup de gens adhéraient à cette école-là. Ils trouvaient que ça faisait du sens. Parce que spirituellement, ça a du sens. Et logiquement, comment je vais vivre ma vie? En mangeant et buvant, car demain, on va mourir. Donc, la recherche du plaisir, pour les épicuriens, elle était très, très importante. Mais Paul va aussi jaser avec une autre école de pensée. Des disciples qui, eux, ne sont pas des épicuriens, mais sont des stoïciens. Et eux, dans le fond, ils adhéraient à la pensée d'un grand philosophe aussi qui avait vécu, qui s'appelle Zénon. Et pour lui, Zénon, c'était pas pareil comme les épicuriens, c'était différent. Et pour les stoïciens, eux avaient tendance à beaucoup diviniser la nature et tout ce qu'elle comportait. Donc, il croyait quelque part que vraiment il y avait des forces impersonnelles qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui contrôlent tout ce qui se passe dans l'univers. Et les stoïques, les stoïciens, avaient aussi comme principe de dire « il va arriver un paquet d'affaires dans notre vie, mais il faut l'accepter de la manière que ça arrive ». Donc, pour eux, ce n'était pas la recherche du plaisir en se disant « il y a juste une vie à vie ». C'était vraiment des gens qui étaient très, beaucoup plus impassibles, beaucoup plus froids, mais qui se disaient « Dieu dans le fond et dans tout ». Et Dieu est la somme de tout. Pour eux, c'était aussi simple que ça. Et à la mort, comparativement un peu aux épicuriens, pour les stoïciens, à la mort, c'était fini pour le corps. Et l'âme, elle, comme c'était une espèce d'agrégat d'atomes, elle s'en allait quelque part un peu comme une vapeur. Donc, eux avaient une vision un petit peu plus loin par rapport à après la mort. Vous comprenez? Voyez-vous, les écoles de pensée différentes. Et si on allait voir d'autres philosophes, on verrait encore des écoles de pensée qui peuvent être différentes. Mais imaginez Paul. Paul se retrouve au travers de ce monde-là et la parole de Dieu nous dit que lui, il leur parlait de Jésus et de la résurrection. Wow! Que c'est ça, cette affaire-là. Pour certains, Paul était un discoureur, la parole nous dit. Et plus littéralement, c'était un cueilleur de graines. Un peu comme un oiseau qui se promène puis qui ramasse ci, qui ramasse ça. Et d'ailleurs, la traduction du Sommeur dit que lorsqu'ils ont entendu Paul, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains ont dit, c'est une pie bavarde. La traduction du Sommeur va aussi loin de dire que le mot qui est là, c'est que c'est comme une pie. Avez-vous déjà entendu ça, cette expression-là, quelqu'un qui bavarde comme une pie? Bon, on n'en a pas de pie bavarde au Québec, en tout cas pas des oiseaux, on peut en avoir de d'autres genres. Mais on n'en a pas de ce type-là. Mais vous voyez, pour ces personnes-là qui entendaient Paul, ils se disaient, bien, voyons donc. Il y en a qui disaient, c'est une pie bavarde, un discoureur. Puis il y en a d'autres qui, en entendant parler, ils disaient, il a l'air d'annoncer, lui, des divinités étrangères. Parce qu'il parle de Jésus et une autre divinité, résurrection. Mais pour eux autres, une divinité, résurrection, il n'y a rien. Ils ont déjà des milliers d'affaires bizarres de leur bord. Donc, pour eux, ce n'était pas grave du tout. Mais par contre, ça les titillait en se disant, bien, voyons donc, c'est quoi ça? Ce qui fait que ces philosophes-là vont offrir à Paul une occasion unique. Ces gens-là vont l'inviter à venir partager cette doctrine-là, cet enseignement-là, ce que croit Paul. Ce que Paul croit, ils vont l'inviter. Et ils vont l'inviter à aller où? N'importe où. Ils l'amènent sur ce qu'on appelle à l'aréopage. Bon, ça, les touristes aiment bien aller encore dans ce coin-là. Et à l'aréopage, parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, en Grèce, l'aréopage avait déjà été un tribunal très législatif. Mais à l'époque que Paul allait là, l'aréopage était comme un tribunal, mais non pas pour juger des affaires légales. C'était vraiment pour juger des choses spirituelles, pour dire ce courant-là qui arrive, cette information-là, cette doctrine-là, on veut l'évaluer. Et là, il y avait un tribunal qui jugeait si ça avait du sens ou si ça n'avait pas de sens, parce que quand même, en Grèce, il fallait se donner des balises. Et donc, c'était à l'aréopage que vraiment on amenait des personnes comme ça pour évaluer vraiment qu'est-ce qu'on voulait dire. Et si ça avait du sens, et si on pouvait considérer ça comme un nouveau courant philosophique qui pourrait s'ajouter vraiment aux autres. Imaginez pour Paul de pouvoir prêcher l'Évangile dans la capitale intellectuelle du monde. C'est un peu comme si aujourd'hui, on permettait à quelqu'un d'aller prêcher l'Évangile, apporter la parole devant la Cour suprême du Canada, pas pour être jugé, renvoyé parce qu'il a fait une faute, non, pour évaluer ce que tu dis. Ou encore, c'est un comme si on disait à quelqu'un, « Hey, je t'invite à aller à Tout le monde en parle, dimanche, pour le dimanche soir, tout le monde va entendre ce que tu as à dire. » Hey, quelle occasion incroyable pour lui. Sauf que, la parole, elle nous montre que dans Acte 17, que la vraie motivation un peu des Athéniens, elle était des fois un petit peu tordue. C'est qu'ils aimaient beaucoup le blabla. Moi, j'appelle ça le blabla. Et eux autres, ils étaient toujours à la recherche de la dernière mode de tout ce qui pouvait sortir de nouveau au niveau de la philosophie, de la religion. Puis, comme ils ne croyaient pas à une vérité absolue, pour eux, ils étaient toujours ouverts à la dernière idée du jour. Donc, c'est dans ce contexte-là que Paul va avoir l'occasion maintenant de prêcher qu'est-ce qu'il croit. C'est tout un privilège. Et je vous invite à tourner avec moi parce qu'on va lire quand même quelques versets de ce que Paul va dire à tous ces grands intellectuels-là. Pardon, au chapitre 17, et on va lire à partir du verset 22. Acte 17, verset 22. Et rappelez-vous que là, Paul se retrouve au milieu de toutes ces personnes-là qui vont juger de ce qu'il apporte. Verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Prenez une gorgée. Parce que eux, ça a dû faire. Et voyez-vous, Paul a une occasion unique. Et ce que j'aime, c'est que Paul ne commence pas à dire: Hey, ma bande de. Voyons donc. Non. Paul a pris la peine de parcourir la ville et de voir des choses et de comprendre un peu mieux c'est qui ces personnes-là et qu'est-ce qu'ils croient. Donc, il est capable de reconnaître que ces gens-là sont extrêmement religieux, comme il dit au verset 22. Il use d'attaque, mais il est capable de le reconnaître. Ces gens-là sont très, très religieux. Mais la preuve de ça, c'est qu'ils veulent tellement être certains de ne pas manquer leur coup que Paul a vu dans la ville un autel qui est dédié à un Dieu inconnu. Imaginez, 30 000 statues, idoles ou autels ne suffisent pas pour l'ensemble de tous les dieux qui ont identifié. Ils en font un de plus pour être sûr, au cas où qu'on ait oublié un. Et lui, on va le dédier à qui? À un Dieu inconnu. Et c'est ça qui est incroyable. Paul va prendre cet exemple-là pour dire: dans le fond, vous êtes religieux, mais vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Et ce qu'il veut, c'est leur faire connaître qui est vraiment le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Et le vrai Dieu, dans les versets qu'on vient de lire, a certaines caractéristiques. Il sait très bien qu'en disant ces caractéristiques-là, ça va shaker la cage. Mais il a l'opportunité de le faire, donc il va le faire. Pour enlever certains mythes, pour diriger vraiment vers qui est vraiment Dieu. Et quelques caractéristiques, on va les voir, il y en a sept qu'on va voir rapidement. La première caractéristique, le vrai Dieu est un Dieu créateur de toutes choses. On voit ça au verset 24. Il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Comprenez-vous, Athéniens? Comprenez-vous, philosophes? Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il n'y a pas de hasard. Dieu est un Dieu qui est, ce n'est pas une force, c'est un Dieu qui est intentionnel. Dieu avait l'intention et il l'a fait, le monde et tout ce qui s'y trouve. Et voyez-vous ce qu'il disait, voyez-vous la création? Elle exige quoi? Un créateur. C'est aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs en accord avec ce que le psaume 19 dit, au verset 1, dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Il leur dit « Regardez comme moi, Dieu est grand. » On l'a chanté tout à l'heure. On a chanté beaucoup aussi à l'égard de la création, de l'univers que Dieu a créé et tout ce qui gouverne l'univers, toutes ces lois-là qui sont ensemble, qui fait que tout se maintient. Ben qui a fait ça? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas des forces impersonnelles, ce n'est pas une collision d'atomes. C'est vraiment un Dieu qui est intentionnel dans ce qu'il fait. Mais en plus d'être vraiment un vrai Dieu, n'est pas seulement un Dieu créateur, mais c'est un Dieu qui est souverain, au verset 24. Il va dire, « Il est le Seigneur du ciel et de la terre. » Pensez à ça comme il faut. C'est juste une logique. C'est juste une logique parce que si Dieu est le créateur de tout ce que l'on voit, de l'univers, il est capable d'en être le patron. On est-tu d'accord? C'est un peu normal qu'il soit vraiment le souverain en tant que tel. Donc, c'est normal qu'il soit le seigneur de l'univers. Mais en plus d'être créateur et souverain, c'est un Dieu sans limite. Et ça a dû commencer à brasser un peu. Parce que là, Dieu n'habite pas, au verset 24, dans des temples faits de mains d'homme. Ne pensons pas qu'on peut mettre Dieu en canne, on peut mettre Dieu là. Non, Dieu a créé, il est le patron. Donc, à ce moment-là, il n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Et un roi 8:27 va dire, même pour nous aujourd'hui, parce qu'on, bien entendu, on ouvre la parole pour aller un peu plus loin, il va dire, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. C'est-tu grand, ce Dieu-là? Donc, c'est un Dieu créateur, c'est lui le patron, et en plus, il n'y a pas de limite. Et il va aller un petit peu plus loin avec le coup de marteau sur le clou. En plus, c'est un Dieu qui est sans besoin, verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines. Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Quand même que ces gens-là feraient des sacrifices, feraient des offrandes, s'installeraient à faire brûler quoi que ce soit devant toutes ces statues-là, Dieu dit, il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Il n'a besoin de rien. On ne peut pas impressionner Dieu par ce que l'on fait. C'est un peu ça qu'il leur dit en même temps. Parce qu'il est créateur de tout, tout lui appartient. Donc, à quelque part, pensons pas, cher philosophe, cher Athénien, que vous allez réussir à impressionner Dieu par tout ce que vous lui donnez, tout ce que vous lui faites. Et en plus, Dieu est la source de la vie, au verset 25. Il donne à tous la vie, la respiration et toute chose. C'est clair, c'est lui qui donne ça. La preuve, si je vous disais un matin, prenez une grande inspiration et expirez. Vous êtes encore là? Bien, si Dieu ne vous donnait pas la respiration, comme il vient de le dire, on aurait besoin d'un paquet d'ambulanciers un matin. Hein, puis ça presserait. Donc, Dieu est vraiment la source de la vie. C'est lui qui est à la base de tout ça. Et où ça devient, vers où Paul les amène, il va aller encore un peu plus loin en disant, c'est un Dieu qui est accessible. On voit ça au verset 26 et 27. Parce que Dieu veut, à quelque part, se révéler. Dieu n'est pas loin comme ça. Il est proche. Oui, Dieu veut qu'on le cherche, comme il dit au verset 26 et 27. Et Dieu, pour lui, c'est important que l'être humain réalise qu'il est la création même de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va parler étant de la race de Dieu, avec la capacité, l'être humain, avec la capacité de penser, de réfléchir, d'avoir une morale. Il est comme de la race de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'ont dit certains de leurs poètes, on voit plus loin. Donc, en conséquence, oui, Dieu veut qu'on le cherche, bien qu'il ne soit pas loin comme toutes ces divinités. Mais en plus de ça, ce que Dieu, sa principale caractéristique, c'est qu'il révèle sa volonté. Au verset 30, et là, le clou, je pense que ça a commencé à être plus dur un peu à rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu au verset 30 va être très clair par rapport à sa volonté, c'est que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Tous les hommes. Dieu ne fait pas de distinction, Paul est en train de dire. Que tu sois le plus religieux, le plus païen, tous les hommes ont besoin de se repentir. Ils doivent le faire. C'est pas une. C'est ils ont à se repentir. C'est une nécessité, vraiment. Mais vous savez ça? Sans doute qu'à ce moment-là, le mot repentir, repentance, ce n'était pas un mot qui était populaire. D'ailleurs, il n'est pas plus de nos jours. Mais pour ces personnes-là, de savoir que ça venait les bouleverser dans leur façon de voir, c'est important pour Paul de dire, regardez là, c'est tout beau ce que vous vous dites et tout ça, c'est toutes des belles philosophies. Mais Dieu, lui, ce qu'il vous dit, c'est que sans tenir compte des temps d'ignorance, tous les hommes, quels qu'ils soient, doivent se repentir. Et c'est quoi la repentance? J'écris, la repentance est un changement de pensée ayant un impact sur ma façon de penser, de parler et d'agir. Vous voyez, la repentance, c'est plus qu'un avis, c'est un changement de façon de voir et qui va tellement m'influencer que ça va avoir un impact sur ma façon de penser, de parler et d'agir. Donc, c'est pas juste une petite attitude, un petit regret, des choses comme ça. C'est quelque chose de majeur qui se passe et qui va avoir vraiment un impact dans ma vie. J'ai lu l'histoire, de toute façon, je ne pourrais même pas la représenter vraiment parce que ma vie, ce qui est arrivé à un moment donné, ce n'était pas tout à fait aussi vrai. Mais je vous le dis pareil. J'ai eu l'occasion à un moment donné de faire des sauts en parachute. Mais il y a longtemps de ça. Et à l'époque, on ne sautait pas en tandem avec quelqu'un attaché. Après, ce n'était pas ça. Tu suivais un cours. Tu étais dans un Cessna, on enlevait la porte. À un moment donné, après avoir suivi 25 heures de cours pour apprendre quoi faire s'il n'y a rien qui marche, on t'approchait du bord et là, tu mettais un pied sur une roue, un pied sur le marchepied, tu t'en allais à ta côté après le bidule de l'aile. Là. Et là, tu regardais l'instructeur. Puis quand il tapait sur l'épaule, c'était « go, lâche-toi, pousse ». Parce qu'il fallait pousser, sans ça, tu tombais sur la roue. Supposons que je m'étais dit « oh, change d'idée ». Bon. Voyez-vous, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais retourné en dedans. Mon illustration n'est pas très bonne parce que retourner en dedans d'un Cessna, sans doute que ce n'est pas bien, c'est pas fameux. Mais vous comprenez-vous l'idée? Je m'en vais par là et là, je change d'idée et mon idée va faire que c'est bien de valeur maintenant, je rentre en dedans. Fini ces histoires-là de sauter. Voilà, OK? Bien, la repentance, c'est un changement vraiment de pensée qui a un impact sur ma façon de penser, de parler et d'agir. Et le point de départ, c'est la nécessité de changer d'avis sur Dieu, sur moi-même et sur Jésus-Christ. C'est d'être capable, dans la repentance que Paul annonce, de dire « Vous n'avez pas la bonne vision de qui est Dieu. » C'est simple, vous devez vous repentir parce que vous n'avez pas du tout cette bonne façon-là de voir vraiment qui est Dieu. Et comme Paul parlait de Jésus, parlait de la résurrection et en l'amenait là, donc, il fallait que ces gens-là acceptent de faire le ménage dans leur façon de penser. Quand même, ça aurait fait 50 ans qu'ils croyaient quelque chose. 30 ans, ils devaient changer vraiment. Et ça devait avoir un impact vraiment dans leur vie. Mais quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi c'est nécessaire de se repentir? Bien, c'est tout simplement parce que le Dieu créateur dont on vient de parler, qui a toutes ces caractéristiques-là, vraiment, lui, il s'attendait à ce que sa créature agisse en conséquence. Et ce que la Bible nous montre, c'est que malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Il n'y a aucun être humain qui a été capable de se mettre en accord avec le but que Dieu avait fait pour eux en les créant. C'est ce qui fait que chacun des êtres humains a manqué le but pour lequel il a été créé. Et c'est pour ça que, à quelque part, on voit qu'on est séparé de Dieu. Mais en même temps, c'est comme une bonne nouvelle que Paul leur dit. Vous devez vous repentir. Allez-vous le faire, mais vous devez vraiment le faire. Parce que Dieu a été offensé. Tout ce que vous êtes en train de faire là, mes amis, c'est pas bon. Vous avez une mauvaise vision de qui est Dieu. Vous autres, les philosophes, vous avez une mauvaise vision de qui vous êtes, vous autres aussi. Voyez-vous? Donc, changez ça. Mettez ça à, je ne sais pas comment on dit ça, Michel, il dit ça souvent, formatez, c'est ça, formatez tout ça, puis Accordez-vous à ce que Dieu dit en tant que tel. Parce que, à défaut de se repentir, ce qu'il dit à ces Athéniens-là, il reste juste une chose. Il ne reste quoi? Que le jugement à venir. Repentance, résurrection, jugement. Imaginez ce que ça fait dans la tête de tout ce monde-là. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. C'est ce qu'il va faire. Mais heureusement, on sait. Et vous savez, quand on lit la parole, tout ça, il nous a donné des choses. On ne voit pas tout ce qui a été dit lorsque Paul était dans la place du marché et ainsi de suite. Mais cette justice-là, c'est juste normal que Dieu l'exige. Parce que c'est un Dieu qui est juste. Ce n'est pas un Dieu qui est bonasse. C'est un Dieu aussi qui est saint. Et c'est pour ça que quand on se présente devant un pareil Dieu, on a besoin de se repentir vraiment. Parce que sinon, Dieu, dans sa justice, n'a pas le choix. Un jour, il a fixé. Il est fixé ce jour-là. Il connaît. Un jour, il va juger le monde selon sa justice. Mais heureusement, le souhait de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à quoi? La repentance. Ça arrive toujours à ça, voyez-vous? Et ça, Dieu, là, dans son cœur, dans son amour, il est patient. Il était patient à cette époque-là, en 57. Il est patient encore aujourd'hui, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous vraiment arrivent à la repentance. C'est ce qu'il dit. Quand il parle à ces philosophes-là, à l'aréopage, c'est ce qu'il leur dit. Et il va leur ajouter en disant, « Je vais vous donner la preuve que ce Dieu-là, c'est le seul et vrai Dieu. C'est le seul. Pourquoi? Parce qu'il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a donné la preuve à tout le monde qu'il est le seul vrai Dieu parce qu'il a ressuscité Jésus. » Wow! Mais vous vous souvenez que je vous ai dit au début que les stoïciens, les épicuriens, la résurrection, d'un bord, on ne veut rien savoir de ça, puis de l'autre, il y a juste l'âme qui s'en va puis qui flotte dans les airs. Ça a provoqué, bien entendu, des réactions. Et les réactions au message, bien entendu, la première réaction, c'est que les gens se sont moqués. Paul parle de sujets comme de la résurrection, de la repentance. C'est sûr qu'il y a des gens, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, « Voyons donc, Paul, tu capotes. Tu en es trop. » Quand ils ont entendu le mot « résurrection » pour eux autres, ça a fait déborder le vase vraiment. Donc, ça a amené des moqueries. Les uns se moquèrent, c'est certain. La plupart ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Il y a juste les stoïciens qui en avaient un petit peu, là, mais sous une autre forme. Donc, de parler d'une résurrection d'un corps, pour eux, c'était inacceptable, et ça ne rentrait certainement pas dans les balises pour être capable de rendre ça au même rang que les autres philosophies. Donc, pour certains, c'était des balivernes, c'était de la foutaise, ce que Paul disait. Donc, ils se sont moqués de lui. Pour d'autres, eux, c'était « on reporte ça à plus tard ». Ils vont dire « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ah! On peut voir ça de deux manières. On peut voir ça en se disant « ben, ça a du sens, on va voir ça une autre fois ». On va y réfléchir. Puis, d'un côté, ce n'est pas bête. Combien d'entre vous avez eu besoin de réfléchir lorsque vous êtes venu en contact avec la parole de Dieu puis de ce que des gens disaient? C'est peut-être comprenable, en espérant qu'après avoir réfléchi, on se décide, bien entendu. Donc, pour certains, c'était la moquerie. Pour d'autres, ça a été des reports. On va digérer ce que tu viens de nous dire là, Paul. C'est pas mal quelque chose à ruminer. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont accepté ce que Paul a dit. Il est dit, que Denis l'Aréopagite a accepté. Damaris, une femme, et d'autres. C'est ça qui est dit. Denis l'Aréopagite, un membre du tribunal, lui-là, il s'est foutu de ce que les autres pensaient, lui, il s'est attaché à Paul et il l'a cru. Une dame et quelques autres aussi, quelques-uns qui ont accepté. Maintenant, ce que j'aimerais juste faire pendant les quelques minutes qui restent, c'est quoi la situation Québec en 2018. Hein? Qu'est-ce qu'il y en a au Québec en 2018? Des idoles. Voyez-vous du monde se prosterner devant des idoles puis de faire des offrandes? On ne voit pas ça. On ne voit pas ça du tout. Certains vont dire, oui, mais moi, je n'adore pas les idoles. Non. Mais bien entendu, puis là, par là, je ne parle pas de quelqu'un qui va aller assister là, ou qui a déjà assisté au, au retour de nos idoles. Là. Vous savez, qui font le tour du Québec, puis la tournée des idoles, ce n'est pas ça. Là. Mais les idoles, vraiment, en tant que telles, bien qu'on n'a pas des statues, tout ça, vous savez, la parole de Dieu nous montre que spirituellement, là, une idole, dans le fond, c'est toute personne ou toute chose qui, dans notre cœur, prend la place de Dieu. Toute personne ou toute chose qui, dans notre cœur, ça, là, il tient, ça prend la place de Dieu. Et c'est pour ça que, là, je ne veux pas faire une publicité, David, je ne sais pas si on l'a encore, les idoles du cœur, si jamais vous avez l'occasion de lire ce livre-là, prenez ça, il n'y a personne quand ça ne vient pas nous bouleverser parce que, à quelque part, on réalise qu'on est susceptible d'avoir pas mal aussi d'idoles, donc de se laisser contrôler. Et si on se demande des fois, c'est-tu vraiment une idole, ça? On a juste à se demander, qu'est-ce qui arriverait si on me l'enlevait? Si on m'enlevait ça que j'aime tellement, là, comment je réagirais? Bien, au Québec, on a encore des idoles. Des philosophies, bien, on en a aussi à profusion. Allez chez Renaud-Bray ou dans n'importe quelle librairie, vous allez voir des rangées entières remplies de livres, de philosophies, de croissance personnelle, de courants de pensée qui sont là. Et c'est tellement ça qui veut nous influencer qu'on veut nous donner des visions qui ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu dit, un peu comme les philosophes vivaient. Savez-vous que le 3 et 4 novembre à Montréal, il y avait le salon de la mort au centre des congrès? Au centre des congrès, parler de la mort n'a jamais tué personne. C'est vrai. Puis je ne dis pas par là qu'on ne doit pas préparer notre mort. Ce n'est pas ça. Mais voyez-vous, là, il y avait différents des exposants et tout ça, dont un espace rituel. 5 cultures, 5 rituels. Dans cet espace symbolique et social, les participants découvriront toute la diversité des rituels funéraires d'un continent à l'autre. Un peu plus loin, un aire de repos. Un espace où les visiteurs pourront expérimenter le repos éternel. Wow! Une conférencière ici, elle va parler, elle a scruté à la loupe la vie après la mort, la vie avant la mort et le passage de la mort pour en déboulonner tous les mythes. Sa conclusion, plus je comprends la mort, plus je mords dans la vie. Ça ressemble-tu à quelque chose, ça? Vous voyez, peu importe ce que vous croyez tant que vous êtes sincère. En 2018, des philosophies, il y en a à profusion. Dans le fond, le monde n'a pas changé. C'est aussi simple que ça. Et alors, le message de Paul, là, il est aussi actuel à matin qu'il l'était en l'an 54. Et ma question que je vous pose maintenant, à qui vous identifiez-vous? Qui que vous soyez ici dans la salle, là, faites un effort pour vous dire à qui je m'identifie. Est-ce que je m'identifie aux philosophes? Les épicuriens, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bon, je ne parle pas de ne pas aller prendre un bon repas en gang, là. Pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, si c'est ça qui vous contrôle, si c'est juste les plaisirs de la vie en se disant « De toute façon, ça va finir, je vais mourir, ça s'arrête là. » C'est seulement les plaisirs. Seulement les plaisirs. Des choses qui sont légitimes peuvent devenir des méchantes occasions de chute, à quelque part. Donc, pour les épicuriens, c'était ça. Pour les stoïciens, tout est Dieu, je suis Dieu. Tout est la somme de Dieu. Imaginez. Dans Mac 2000, c'est Mac 2000, Suzanne, excuse-moi, c'est Suzanne qui m'a découpé ça. D'où viennent nos croyances? Le voyage de l'âme représente le moyen plus direct d'entrevoir les mondes célestes qui sont en nous. Et lorsque vous vous unifiez à votre âme et que vous vous permettez enfin d'être qui elle est et qui vous êtes par le fait même, votre âme étant une partie de votre cœur, amour inconditionnel, alors vous pouvez tout réaliser. Vous choisissez de vivre les expériences, il ne faut pas les juger comme étant bonnes ou mauvaises. Il faut être stoïque. On garde ça comme ça. Donc, si ce n'est pas les philosophies, est-ce que vous êtes un peu comme les Athéniens? Il y a quelque chose qui occupe dans votre cœur une place qui ne devrait pas. Ce n'est pas la place de Dieu. C'est un idole, à quelque part. Ou peut-être que vous êtes comme les religieux, si je peux l'avoir. Les religieux, parce que Paul allait aussi voir les religieux, les juifs. Bon, il n'y a pas de juifs, sans doute, ici, dans la salle à matin. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous appuyez sur une religion pour penser être correct et être en règle avec Dieu. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous appuyez sur une religion évangélique parce que vous vous dites, ça a du sens. C'est bien d'être là au travers de ces personnes-là. À qui vous identifiez? Ou est-ce que vous êtes capable de vous identifier à Denis, à Damaris et quelques autres dont on n'a pas les noms, qui, eux, se sont attachés et ont cru? Bien, ce qu'on souhaite, bien entendu, c'est que vous aussi, vous puissiez être comme Denis, Damaris et mettre votre nom là. Que vous puissiez comprendre vraiment que le plan d'amour de Dieu, c'était bien simple, c'est qu'on est séparés de lui. Il faut qu'il vous changez votre façon de penser à Dieu et de vous, en vous-même aussi. Lâchez tout ce qui vous est rentré dans la tête et dire, je crois ce que Dieu dit. Oui, il est le Créateur. Oui, je suis séparé de lui. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour me réconcilier avec lui, son Fils. Et la preuve que c'est Jésus qui a subi la colère à votre place et que Dieu l'a ressuscité. C'est ce que Paul n'arrêtait pas de prêcher. Donc, c'est ce que Paul a toujours fait. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qui était aussi annoncé, l'importance de vraiment croire. Donc, la repentance avec la foi. Parce que la solution, elle est vraiment là. Et pour Denis, Damaris et, si vous mettez votre nom là, pas de crainte concernant le jugement. Pas de crainte. Pourquoi? Parce que, comme il est dit en 1 Thessaloniciens 1, au verset 9 et 10, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes converti à Dieu. Converti à Dieu en abandonnant, ça c'était des décisions, les idoles, on vient d'en parler, pour servir. On ne se tourne pas de bord pour rien faire et s'asseoir, non, on se tourne de bord pour servir le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu, et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui l'a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça que Paul dit tout simplement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la grosse question, c'est comment vous allez répondre. Un petit coup de clic, s'il vous plaît, Yannick. Comment vous allez répondre à ça? Est-ce que vous allez être quelqu'un qui allait partir d'ici en vous moquant? Hey, lui, il est sauté. On est en 2018, hein? Résurrection, repentance, jugement. Ça ne marche pas son affaire, Benoît. Même ce qui est écrit dans la Bible, ça ne marche pas. Vous allez vous moquer. Est-ce que vous allez être quelqu'un qui allait reporter un peu parce que vous êtes intrigué? Vous dites, ouais, je pense que je vais sonder ça un peu plus loin. J'espère que vous allez sonder plus loin. Si c'est auprès de des gens que vous connaissez, faites-le. Sinon, prenez le temps de regarder dans la parole, posez des questions, mais allez plus loin. C'est important. Ou encore, vous allez faire comme les derniers, c'est-à-dire vous allez répondre en acceptant. Vous allez répondre vraiment favorablement à la parole de Dieu. Vous allez vous mettre votre foi en ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est ça notre prière. Et je termine en laissant quelques réflexions très, très rapides. Il me reste 2 minutes sur si vous êtes un chrétien. Vous avez tout fait ça, vous connaissez vraiment, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous savez que vous voulez marcher avec lui. Juste 2 petites réflexions ou mises en garde. La première, c'est qu'est-ce qui influence ma façon de penser et d'agir? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est les courants de tout ce que j'entends, que ce soit dans les journaux, à la télé, à la radio, tout ce qu'on veut me mettre dans le crâne, dans le fond, pour me dire, « Hey, tu n'as pas trouvé le vrai bonheur. » Le vrai bonheur, ce n'est pas là, c'est ici. C'est dans cette façon-là de penser. Et c'est pour ça que Paul va dire aux Colossiens, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Et ça, vous et moi qui le connaissons, ça nous guette. Ça nous guette et on le voit tellement de plus en plus à quel point tout est brisé à cause de ce que le monde veut nous enseigner, c'est ce qui fait qu'on se laisse tellement influencer que ça vient briser les choses qui devraient être à la base de notre foi et de notre marche chrétienne, à quelque part. Et c'est pour ça que le véritable bonheur, c'est auprès de cette relation-là vivante qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et cette semaine, en jasant, avec Suzanne, à un moment donné, on parlait elle me sensibilisait, on va dire ça comme ça, aux attentes que des fois les gens ont, que ce soit envers leur travail, dans leur couple, leur épouse, et ainsi de suite, les attentes qu'ils ont et qui ne sont pas satisfaites, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, si on base notre bonheur sur des attentes et que ça ne fonctionne pas, on va être déçu, déçu et déçu. Et le monde va vous dire quoi faire quand vous êtes déçu, soyez-en certains. Il va vous dire quoi faire, comment agir. Donc, attention à ce qui influence notre pensée d'agir. Et le deuxième point, rappelons-nous la grande commission que Dieu nous a donnée aussi. Comment je vois ma ville, moi? Paul, lorsqu'il était dans la ville d'Athènes, il regardait ça. Il voyait des œuvres d'art, oui, mais il voyait plus loin. Comment, moi, je vois ma ville ici à Trois-Rivières? Comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ne glorifient pas Dieu, un peu comme Paul faisait. Quelqu'un a dit, ce que vous voyez détermine ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez détermine ce que vous faites. Est-ce que je suis prête à dire, moi aussi, à quelque part, j'ai une responsabilité dans mon travail, dans quoi que ce soit que je fais, pour vraiment être celui qui, de par son témoignage, autant physique que verbal, donne la vérité, présente le vrai Dieu. Et de plus en plus, je vous le dis, ces mots-là, résurrection, repentance, on ne veut pas les utiliser. Pourtant, c'est juste une preuve d'amour que Dieu a eu pour vous et pour moi. Qu'on puisse vraiment le réaliser et où Dieu nous met, qu'on puisse être des témoins vraiment pour lui. Ou comme quelqu'un disait, des missionnaires déguisés en autre chose. Un musicien, un notaire, un fonctionnaire, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a en dessous de cet habit-là que Dieu veut que vous soyez par votre témoignage, autant verbal que dans votre personne. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier de ce que ta parole en 2018, elle est encore très actuelle. Seigneur, quel privilège nous avons de te connaître. Oh, quel bonheur nous chantons de le connaître, celui qui ne pourrait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Seigneur, c'est notre prière que ce matin, au travers de ce qui a été partagé, ta parole à toi puisse agir dans les cœurs. Donne-nous d'avoir ce zèle pour annoncer ta parole et si on ne te connaît pas, d'avoir cette attitude, Seigneur, de nous foutre de ce que les gens pourraient penser, mais de se diriger vers toi, Seigneur, pour goûter vraiment à ton amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, en s'abandonnant vraiment à lui, en le prenant et en l'acceptant comme sauveur personnel. Donc, que tu puisses, Seigneur, labourer nos cœurs et que ainsi, Seigneur, tu puisses en retirer toute la gloire. Dans le beau nom de ton Fils, on t'en prie. Amen.